Eh bien, gloire à Dieu pour ces chants de reconnaissance. Et vraiment, nous sommes dans l'action de grâce, dans la glorification du nom du Seigneur qui nous sauve, qui est venu à notre secours, qui a combattu pour nous. En levant les mains, je me souvenais de ce passage où il y a ce combat contre Amalek dans la plaine, et où Moïse est monté sur la montagne et il tient ses mains levées. Et tant que Moïse a ses mains levées dans la glorification du nom du Seigneur, eh bien, la victoire est remportée. Et tant que nous sommes dans l'adoration véritable, eh bien, le Seigneur est à l'œuvre pour nous appliquer sa victoire, la victoire de la croix. Alors nous pouvons vraiment chanter et prier avec reconnaissance. Je vais lire un passage, mais avant, on va encore prier et vraiment nous placer devant le Seigneur. Seigneur Dieu, notre Père, nous voulons vraiment te bénir, nous glorifions ton nom. Tu nous as unis, tu nous as réunis, Seigneur Dieu. Notre Dieu, notre Père, tu es venu vers nous, tu nous as pris là où nous étions avec nos lacunes, avec nos faiblesses, avec tous les progrès que nous avons à faire, avec nos différentes cultures même, Seigneur, tu nous as vus, tu nous as choisis, tu nous as élevés pour faire de nous une génération qui te loue, une génération qui te connaît, une génération qui glorifie ton nom, quels que soient les âges, Seigneur. Alors je te bénis et je te rends grâce avec mes frères et sœurs, ce matin. Sois glorifié, répands ton Saint-Esprit, agis, Seigneur, au milieu de nous. Amen. J'ai adressé, certains ne l'ont pas encore eu, mais j'avais eu à cœur de préparer une circulaire plus spécifique aux familles, aux parents des enfants chrétiens. Et j'ai introduit donc cette circulaire par cette scène des Actes des Apôtres, au chapitre 21, versets 5 à 6. Mais lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et ils retournèrent chez eux. Voilà, c'est une scène qui, personnellement, me touche profondément parce que c'est une scène où nous voyons les familles au complet pour accompagner l'apôtre dans ses adieux. C'est la dernière fois qu'il le voit, l'Église se réunit. Et ce ne sont pas seulement les anciens de l'Église, ce ne sont pas seulement les hommes de l'Église, ce ne sont pas seulement les hommes et les femmes de l'Église, ce sont les hommes, les femmes et les enfants qui sont là, qui accompagnent l'apôtre jusqu'au rivage et qui leur font leurs adieux. Et si, il y a donc ici cette mention qu'ils sont mis à genoux, donc sur le rivage pour prier ensemble. Et c'est la même scène que l'on trouve déjà un peu plus haut, dans un autre port, après, donc au chapitre 20, verset 36, après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et là, il y a une précision, mais que l'on doit certainement imaginer aussi pour la scène que je viens de vous lire. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient, affligés surtout de ce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage, et qu'ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Donc, deux scènes où l'Église est réunie pour faire ses adieux à l'apôtre. Et donc, dans cette deuxième scène, il y a la mention des femmes et des enfants qui sont là. Donc, c'est l'Église tout entière qui est réunis. Alors, je voudrais vraiment insister ce matin pour que nous gardions les enfants près de nous, avec nous, adultes et enfants réunis pour célébrer les louanges du Seigneur, pour louer et glorifier le Seigneur. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il y ait donc des familles complètes qui soient venues aujourd'hui avec les enfants qui sont donc qui ont participé à la première partie du culte et qui maintenant sont enseignés, qui vont revenir pour terminer le culte avec nous, pas pour être là simplement à attendre la fin, mais pour célébrer la fin du culte tous ensemble. Alors il y a des activités spécifiques qui sont prévues pour les enfants, et j'insiste dans cette circulaire pour que justement les parents permettent à leurs enfants de s'assembler pour ces activités, parce que il y a des besoins spécifiques aux enfants et aux jeunes, mais pas pour séparer les enfants des adultes, pas pour qu'il y ait, on peut dire, deux classes différentes dans l'Église, la classe des adultes et la classe des enfants qui évoluent séparément. Non, notre pensée, c'est que nous partageons ensemble la foi au Seigneur Jésus, les aînés et les enfants, et non seulement la foi, mais les événements de la foi. Le culte, mais les différentes occasions qu'il y a de se réunir, nous partageons ensemble, adultes et enfants, ces événements de la foi. Si on pense à ces enfants du livre des Actes, n'ont-ils pas gardé en mémoire cet événement extraordinaire des adieux de l'apôtre? C'est quelque chose qui a dû les marquer pour toute leur vie, ces enfants qui accompagnaient leurs parents. Les paroles, les gestes, les émotions, l'espérance partagée, même le regret de devoir se quitter. Tout cela, donc, les enfants l'ont vécu et ça a dû les marquer profondément. Mais si nous pensons aux enfants, eh bien, nous devons aussi nous poser la question, comment vivons-nous nous-mêmes notre propre génération? Nous préparons la génération à venir, mais notre propre génération. Dans un message que donc, j'ai entendu cette semaine, que j'ai reçu, donc, j'ai écouté le frère Jean-Marc Taubois qui donc, apporte un message sur la dernière génération ou la génération future. Et ce prédicateur, donc, affirme que les expériences du commencement de la première génération qui a été appelée par le Seigneur hors d'Égypte, eh bien, concernent, sont les mêmes que les expériences que vivra la dernière génération. Et donc, la première génération a été éprouvée particulièrement, et la dernière génération sera éprouvée tout spécialement et encore davantage que la première. Et la première a dû apprendre la connaissance de Dieu à travers ses erreurs et même sa faillite. Hein. Mais la dernière a l'avantage de connaître le Seigneur dans sa grâce, d'être née, d'être enracinée dans la grâce. Et si la première génération a failli, la dernière, elle, est appelée à glorifier Dieu, à tenir bon, à tenir ferme, donc dans les épreuves qu'elle connaîtra, d'un monde qui se déchaîne contre la connaissance de Dieu. Et entre cette première et cette dernière génération, eh bien, il y a toutes les générations qui se succèdent et qui sont appelées à s'identifier justement à la génération qui connaît le Seigneur et qui triomphe, qui se dégage, la génération qui a failli et qui ne connaissait pas encore finalement le Seigneur, mais qui entre donc dans la foi et qui vit selon le royaume des cieux, selon le monde nouveau. Un rappel donc qui est fait dans l'Épître aux Hébreux, hein, chapitre 3, verset 10. enfin, verset 8, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. Vos pères me tentèrent pour m'éprouver, ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Oui, le Seigneur a été irrité contre cette génération et cette génération, finalement, elle est allée, en définitive, jusqu'à crucifier le Seigneur, en fait. C'est toute cette génération, puisque le Seigneur lui-même, donc dans l'Évangile, hein, s'adresse aux pharisiens, dans Matthieu, donc si je prends Matthieu chapitre 12, alors, Jésus s'adresse à partir du verset 38, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne sera pas donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Vous voyez, c'est toujours la même, finalement, génération incrédule, méchante, adultère, qui ne comprend pas l'œuvre du Seigneur et qui, finalement, va se retrouver dominée par l'esprit mauvais, puisque le Seigneur Jésus, au verset 43 dit, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, va dans les lieux arides cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. » Et le prophète Ésaïe disait donc au chapitre 53, hein, ce passage sur le serviteur de l'Éternel, « Qui parmi cette génération a reconnu le bras de l'Éternel ?» Donc on peut dire que la première génération va des premiers appelés jusqu'à Christ qui n'a pas été reconnu. Il y a une génération qui ne comprend pas l'œuvre de Dieu. Mais à partir du sacrifice de Jésus à la croix, eh bien, il y a une nouvelle génération qui est suscitée, celle qui rend gloire à Dieu, celle qui se fonde sur sa bonté, sur sa fidélité, et qui est un peuple, à partir de ce moment-là, véritablement nouveau-né, et donc et qui tout de suite, on peut dire, et la nouvelle et dernière génération, finalement il n'y a que deux grandes générations, hein, celle à qui le Seigneur a voulu se révéler et qui ne l'a pas compris, tandis qu'après il y a la génération qui reçoit le témoignage de sa grâce et que le Seigneur peut sauver. Alors il y a beaucoup de passages qui justement parle de cette génération future. Dans le psaume 22, déjà, justement, le psaume 22 qui est le psaume de la crucifixion, hein, n'oublions pas, qui présente le Seigneur crucifié, le psaume 22. Eh bien, le psaume 22, à partir du verset 23, donc suite à la description des souffrances de Christ. Il y a au verset 23, « Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et puis, au verset 31, « La postérité le servira, on parlera du Seigneur à la génération future, et quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. » Il est question donc dans ce psaume, à partir de l'œuvre de la croix, de l'œuvre de Jésus-Christ, de la génération future, du peuple nouveau-né, qui est né dans les souffrances et dans les meurtrissures de notre Seigneur. Et cette génération nouvelle, future ou dernière, selon la manière dont on traduit, eh bien, nous la retrouvons aussi au psaume 78, versets 2 à 8. Mais bon, je prends le verset 1, hein, c'est un cantique d'Asaph. Mon peuple écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas, comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Le témoignage a été établi pour être connu de la génération future. Cette génération qui peut maintenant découvrir l'œuvre de la grâce, parce que l'apôtre Paul dit donc dans son épître aux Éphésiens que oui, l'évangile, le témoignage de Dieu n'était pas encore connu. Je vous lis donc 3 dans Éphésiens chapitre 3. Au verset, je vais dire à partir du verset 4, en les lisant, donc les révélations que je vous apporte, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Il y a une vraie différence. L'évangile n'était pas connu, en tout cas dans sa totalité, dans sa perfection, n'était pas connu par les générations précédentes. Le mystère de Christ a été, bien sûr, vécu sur la terre lors de l'incarnation, mais a ensuite été prêché, développé, compris, exposé par les apôtres. Et l'apôtre Paul en particulier a été chargé d'apporter cette révélation de la grâce et de la puissance de Dieu à la nouvelle génération. Alors à partir de ce moment-là, eh bien, ce sont toutes les générations qui sont appelées à célébrer la grâce de Dieu. Lorsque, versets 20 et 21 du même chapitre, l'apôtre dit « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Dans toutes les générations, on peut célébrer la gloire de Jésus-Christ. Alors, c'est un privilège de l'Église, et c'est l'Église tout entière qui célèbre la gloire de Dieu. Toutes les générations de l'Église. Ce qui ne veut pas dire que dans la première génération, la génération avant Christ, il n'y en ait pas eu qui ait compris et célébré à l'avance par la foi l'œuvre du Seigneur et qui, d'une certaine manière, faisait déjà partie de cette nouvelle génération qui se distinguait de la génération incrédule, rebelle, perverse, celle qui irritait le Seigneur. Et tout au long de l'histoire en Israël, il y avait déjà ceux qui appartenaient par la foi à la nouvelle génération. Oui, mais pour l'Église, c'est le schéma inverse. C'est toute l'Église qui appartient au Seigneur et qui forme une génération qui est agréable au Seigneur depuis le commencement la première Église jusqu'à la fin, tout au long de l'histoire, l'Église fait partie de la génération qui célèbre le Seigneur et qui se prépare à l'accueillir dans la gloire. Et au sein de l'Église, certains se comportent encore selon les idées, les principes de l'ancienne génération. Alors ils doivent être avertis, corrigés, repris pour justement plaire au Seigneur et ne pas rester dans les anciennes compréhensions et donc réactions. Hein. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, donc dans son épître aux Corinthiens, au chapitre 10, rappelle l'histoire d'Israël. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Oui, bien sûr, que tout en ayant été convaincu de la grâce de Dieu, dans notre nature charnelle, nous pouvons revenir en quelque sorte aux principes et aux réactions de l'ancienne génération, vivre et agir selon la chair. Et alors, dans ce cas-là, nous ne sommes pas meilleurs que la première génération et nous ferons les mêmes péchés et commettrons les mêmes erreurs que eux. Donc nous devons réfléchir, travailler et faire en sorte d'être totalement dans la vie nouvelle et dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, et pour être identifié à la génération qui tiendra bon dans les derniers temps, lorsque l'adversaire se déchaînera pour amener ce que lui veut, c'est-à-dire la révolte contre Dieu, alors que le Seigneur, lui, veut notre obéissance et notre salut. Je vous lis encore dans le psaume 102. Versets 16 à 23. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtira Sion. Il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future, et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Car il regarde du Dieu élevé de sa sainteté, du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre, pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem, quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel. C'est cela qui est devant nous, c'est la vision qui est devant nous, que toutes les nations, tous les peuples, tous les royaumes s'assemblent et servent l'Éternel. Donc, le peuple nouveau qui a été créé en Jésus-Christ, eh bien, se lève, et chacune des générations de l'Église célèbre le nom du Seigneur et se prépare à ce temps où la gloire sera manifestée et où les nations entières célébreront le Seigneur. Mais en attendant, c'est au milieu d'une génération pécheresse que l'Église donc porte cette espérance et la manifeste. L'apôtre Paul, donc c'est dans Philippiens, où est-ce que j'ai mis cette référence ? Philippiens chapitre 2, verset 15, nous le rappelle. Donc, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Donc, voilà, il y a, on peut dire, l'ancienne génération qui ne comprend pas les œuvres de Dieu et qui se poursuit par un monde rebelle et qui va à sa perte, et qui est corrompu totalement et qui se corrompt de plus en plus. Et il y a maintenant au sein de cette génération corrompue, perverse et finalement perdue, la nouvelle génération qui est appelée à briller comme des flambeaux dans le monde pour que Dieu suscite de nouvelles âmes, fasse naître à la vie nouvelle de nouveaux enfants, et que cette génération qui se développe au sein de ce monde corrompu puisse, au jour de Dieu, célébrer la gloire du Seigneur. Et alors l'ancienne génération disparaîtra et la nouvelle génération, eh bien, sera mise en évidence par le Seigneur, sera glorifiée par le Seigneur, seront glorifiés avec lui. Et alors, eh bien, il n'y aura plus d'obstacle à la connaissance de Dieu. On peut dire que la première génération a abouti au rejet de Christ à la croix. La nouvelle génération aboutit à la glorification de Jésus-Christ lorsque le Seigneur se présentera. Ceux qui sont à la, on peut dire, oui, j'avais pris cette référence, que ceux qui sont à la mamelle, Jésus dit, hein, quand les pharisiens veulent empêcher les enfants de le glorifier, justement, la génération nouvelle de glorifier le Seigneur qui est dans le temple, eh bien, le Seigneur leur rappelle que le prophète a écrit que ceux qui sont à la mamelle célébreront le nom du Seigneur. Hein. Et voilà, ce sont ceux-là que le Seigneur prépare, et tout au long des siècles, il y a ceux qui, voilà, qui sont appelés et qui deviennent des enfants nouveau-nés, qui apprennent à louer et glorifier le Seigneur. Et je voudrais que nous puissions donc être de ceux qui continuent à susciter une génération qui aime le Seigneur et qui sera prête à le glorifier quand l'adversaire sera au plus fort de sa domination. Ce qui n'est pas loin, hein, pas loin du tout, ce qui est même déjà là pratiquement dans sa totalité. Donc que notre cœur vraiment soit au Seigneur et que nous préparions nos enfants et que nous soyons, voilà, c'est pas seulement les préparer, mais qu'ils soient avec nous, que soyons avec eux. C'est pour ça qu'une sœur a rappelé que, donc, de temps en temps, on faisait un culte de famille, et qu'il ne faut pas abandonner cette idée-là, parce que, voilà, que les enfants sachent, comprennent qu'ils ne sont pas là au culte parce que, voilà, on les amène pour assister, et puis ils sont comme s'ils étaient étrangers, on peut dire, au culte, hein, mais qu'ils font partie prenante du culte. Qu'ils célèbrent le Seigneur avec leurs parents, avec les adultes, avec les anciens, que c'est leur part aussi de louer et de glorifier le Seigneur, que c'est vraiment tous ensemble que nous appartenons au Seigneur. Nous sommes adultes, âgés et nouveau-nés, nous sommes la génération qui glorifie le Seigneur Jésus-Christ, la génération que le Seigneur a suscitée par son sacrifice pour glorifier Dieu. Amen.